Bonjour à tous. Est-ce que ça va le micro? C'est bon? Alors dans ma lecture de la Bible, je suis actuellement dans le livre des Chroniques. C'est pas un livre qu'on lit souvent. Dans 2 Chroniques, donc 2 Chroniques chapitre 12. Versets 9 à 11, ça se trouve juste après le livre des rois. Donc, Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. Le roi Roboam fit faire des boucliers de bronze pour les remplacer et les confia au chef des gardes chargé de surveiller l'entrée du palais royal. Chaque fois que le roi se rendait au temple de l'Éternel, les gardes venaient les enlever, puis ils les replaçaient dans la salle du corps de garde. Alors, c'est une scène qui semble plus ou moins inaperçue, mais en fait qui est vraiment très lourde de signification. Parce que dans ce passage, des boucliers d'or sont remplacés par des boucliers de bronze. Et quelques chapitres auparavant, on est au sommet du règne de Salomon, qui avait fait construire ces boucliers. Salomon, vous connaissez, c'est le successeur de David, le roi David, et le père de Roboam qui est cité dans le passage qu'on vient juste de lire. Salomon était alors considéré comme l'homme le plus riche et le plus sage que la terre ait jamais porté. Dans 2 Chroniques 9, verset 22, il est dit ceci, « Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. » Et les boucliers d'or qui sont mentionnés dans le passage qu'on vient de lire, faisait partie de cette richesse. Dans 2 Chroniques, chapitre 9, versets 15 et 16, voilà ce qui est écrit. « Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battus pour lesquels on employa 6 kg d'or par pièce et 300 petits boucliers pour chacun desquels on employa 3 kg d'or. » Alors, pour vous donner l'idée de la valeur de ces boucliers, j'ai regardé le prix de l'or aujourd'hui. Chaque grand bouclier coûterait, écoutez bien la somme, 216 000 euros. Rien qu'un bouclier. Salomon en avait 200. Donc la somme serait aujourd'hui de 43 200 000 euros. Donc pour ceux qui aiment bien l'économie, ça devait vraiment briller de partout. Voilà. Et en ajoutant les 300 petits boucliers, qui à eux seuls coûteraient 32 400 000 euros, on arrive à cette somme faramineuse de 75 600 000 euros pour les 500 boucliers. Donc imaginez ce que ça représente. Le côté bling bling. Ça devait briller de partout. Et soudain, ce qui brillait de partout est remplacé par quelque chose de bien moins bonne qualité. Pour vous donner une comparaison, j'ai regardé le prix du bronze aujourd'hui. Parce qu'il a dû, Roboam, il a dû remplacer les boucliers d'or en boucliers de bronze parce qu'on les lui avait volés. On lui avait volé 75 600 000 euros. J'ai regardé le prix du bronze aujourd'hui. Les boucliers de bronze coûteraient aujourd'hui 13 272 euros. Imaginez la différence. 75 600 000 euros d'un côté et 13 272 euros de l'autre. Si vous aviez ça sur votre compte en banque, vous verriez la différence, je peux vous dire. Maintenant, si on regarde ces boucliers de loin, on peut encore avoir l'impression que c'est de l'or. Mais plus on s'approche, plus on réalise que ce n'est pas de l'or, mais bien du bronze. Et certainement que Roboam pensait qu'en mettant des boucliers de bronze à la place des boucliers d'or, il pouvait encore donner une certaine image de l'authenticité de la richesse. Mais les gens qui s'approchaient de près voyaient bien la différence. Vous savez, c'est une superbe image. Pourquoi je prends ce texte? Quand j'ai lu ce texte dans ma lecture de la Bible, pour moi, j'ai réfléchi à cette image, bouclier or, bouclier bronze, et je trouve que c'est une superbe image entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et j'étais encouragé ce matin parce que le frère, il a commencé le culte par ce texte-là, hein, d'Amos, vous voyez. Parce que dans 2 Timothée 3, verset 5, il est écrit ceci. « Sache que dans la période finale de l'histoire, » au verset 1, « les hommes resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Bouclier d'or, bouclier de bronze. » Et là, dans ce texte de 2 Timothée, l'accent est mis sur l'extérieur aux dépens de l'intérieur. C'est comme si j'étais assis dans une voiture, mais qu'il n'y a pas d'essence. Et dans l'Ancien Testament, cet attachement à la pratique extérieure existait déjà. Quand vous prenez le livre de Ésaïe, par exemple, au chapitre 1, versets 10 à 15, c'est un passage qui est un peu similaire à ce que le frère a lu tout à l'heure dans Amos. Chapitre 1, versets 10 à 15. « Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel, vous, peuple de Gomorre, écoutez bien la loi de notre Dieu. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes, de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. » Donc, ce qui est reproché ici...
J'ai hésité longtemps avec le texte. Et j'ai choisi finalement...
Bon, c'est complémentaire. En fait, ce qui est reproché ici au peuple, c'est que le mode de vie du peuple, hein, au verset 5, il dit « Vos mains sont pleines de sang », n'était pas en adéquation avec leurs pratiques religieuses. Il y avait des sacrifices, des holocaustes, des offrandes, des fêtes, des assemblées, des rassemblements, et en même temps, vos mains sont pleines de sang. Et Jésus lui-même va reprendre la même idée en Matthieu 12, verset 7. Il dit « Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. » Entendez-moi bien, Dieu n'est pas contre l'expression pratique de la foi du peuple d'Israël. Au contraire, dans le psaume 50, verset 8, il dit « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches, j'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. » Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les pratiques religieuses, il y a de la place pour les rituels. Mais ce qui est reproché, c'est quand c'est déconnecté de la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'à la lumière de tous ces passages, on peut facilement entrer dans la culpabilité et le découragement. Mais moi, je crois que le Seigneur, il veut nous tirer vers le haut et pas vers le bas. Bien sûr, il y a toujours et il y aura toujours de la place pour la repentance. C'est évident, tant que nous serons sur la terre. Et s'il y a bien une chose à laquelle, s'il y a bien une chose à laquelle nous aspirons tous, c'est l'authenticité. Et en particulier dans la nouvelle génération. Moi, j'ai constaté que dans la nouvelle génération, il y a vraiment une soif d'authenticité. On ne supporte plus l'hypocrisie. Et ça touche tous les domaines de la vie. Vous savez que on est relativement déçu quand on se retrouve avec une contrefaçon, alors qu'on pensait avoir acheté un produit de qualité. Hein, vous achetez un superbe sac marque Vuitton en allant faire une balade quelque part là, en Asie, et quand vous revenez, vous réalisez qu'en fait c'est d'une contrefaçon. Et ça touche énormément d'endroits, énormément de matériel. Et généralement, c'est la déception. Et on a été, je crois, créé par Dieu pour ça, comme ça, qu'on a besoin d'authenticité dans notre relation avec Dieu, déjà, dans notre relation avec nos frères et sœurs, dans l'Église, dans nos relations avec nos amis, dans notre vie de couple. Et moi, je suis frappé par le nombre de personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas d'amis ou d'amis à qui se confier. Mais il y a un deuxième symptôme, je dirais, c'est lorsque on sent que tout est un fardeau et que tout est un devoir. Et que ce qui nous pousse en avant dans la vie chrétienne, c'est les deux animaux suivants. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces deux animaux. Il y en a un, il s'appelle Yaka. Et l'autre, il s'appelle Faucon. Il y a qu'à faire ci, il y a qu'à dire ça, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Et la vie chrétienne, parfois, malheureusement, peut devenir comme ça. C'est que tout est un devoir, tout est une charge, tout est un fardeau. Là, je crois qu'il est temps de s'arrêter. Sincèrement, je crois qu'il est temps de s'arrêter et d'aller vers Jésus. Parce que dans Matthieu 11, versets 18 à 20, voilà ce que dit Jésus. « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter. » Et la charge que je vous impose est légère. Et quand j'ai regardé ce texte, Jésus met en contraste les mots accablé, poids, lourd, fardeau, avec le mot repos. Il utilise aussi l'expression charge légère et facile à porter. Et pourquoi ce joug est facile à porter? Et pourquoi la charge est légère? Eh bien, la réponse est dans le passage même. Parce que celui qui est aux commandes est doux et humble de cœur. C'est lié au caractère de Jésus. Et donc, si le joug que nous avons à porter est lourd, et là je parle de la vie chrétienne en général, et que la charge est lourde, alors il est possible que nous sommes en train d'écouter une autre voix que celle de Jésus. Et que nous soyons à une école qui ne soit pas celle du Seigneur. Il est possible que nous soyons à l'école de la loi plutôt qu'à l'école de la grâce. Et c'est pour ça que je crois qu'il est vraiment important d'aller à la bonne école, de retourner à l'école de la grâce et refuser la voie du menteur. Quelqu'un a dit justement, et ça m'a vraiment marqué, quelqu'un a dit justement que toute notre vie chrétienne, dans tous ses aspects, devrait être le PS que l'on met parfois à la fin d'une lettre. Alors, c'est pas Parti Socialiste, mais c'est post-scriptum. Et vous savez ce que ça veut dire, post-scriptum? Ça veut dire écrit après. Écrit après une lettre. J'ai regardé la définition du dictionnaire. C'est un court message annexe ajouté à la fin d'une lettre, généralement après la signature. Et pour nous, en tant que chrétiens, la lettre a été écrite par Dieu. Et on a besoin de retourner à cette lettre. Et moi, j'aimerais vous lire de nouveau un passage dans Éphésiens. J'ai choisi la parole vivante. Et je vais vous simplement vous le lire, le chapitre 1, versets 3 à 14. Et vous pouvez simplement écouter, recevoir ce qui est dit. Si vous préférez fermer les yeux pour vous concentrer, faites-le. Mais simplement écoutez cette lettre. Celui qui est doux et humble de cœur, il est derrière cette lettre, on le verra par la suite. Voilà ce qu'il dit. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Avant même qu'il ait posé les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce. C'est pourquoi loué soit cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils, au prix de son sang, que nous avons obtenu notre libération de l'esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié, rassemblé sous le gouvernement de Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra un jour à Christ, nous aurons notre part. C'est en Christ que cela se fera, et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres à placer notre espérance en Christ. Depuis longtemps, nous, les Juifs, nous avons entendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Vous aussi, chrétiens d'entre les païens, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet Esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois garanti et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Ça, c'est la lettre, le message que Dieu nous a écrit. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit concernant celui qui est aux commandes, Jésus, doux et humble de cœur. Eh bien, on le retrouve dans cette lettre aux Éphésiens. Au verset 5, il est dit « puisqu'il nous a aimés ». Au verset 5 aussi, il est parlé d'un dessein bienveillant de Dieu envers nous. Au verset 7, il est parlé de sa grâce dans toute sa richesse. Au verset 8, il est parlé de surabondance et même de générosité, de profusion. Et au verset 9, on a encore le mot bienveillance. Vous savez, souvent on utilise des mots sans réaliser ce que ça veut vraiment dire. Mais le mot grâce, par exemple, c'est une remise de peine. C'est un pardon. Mais c'est aussi une faveur accordée par Dieu à quelqu'un qui ne la mérite pas. Donc celui qui a écrit cette lettre et ce passage que je viens de citer, c'est quelqu'un qui nous a accordé une faveur que nous ne méritions pas. La bienveillance, c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur et le bien de votre prochain. Eh bien, celui qui a écrit cette lettre, celui qui nous invite à venir à lui, celui qui a lu qui a inspiré cette lettre de Paul aux Éphésiens, il a aussi envers nous une affection qui le porte à désirer notre bonheur et notre bien. Générosité, qui a un grand cœur, des sentiments élevés de dévouement et d'oubli de soi. Et le sacrifice du Christ, c'est bien un rappel que le Seigneur, vraiment, l'oubli de soi est total dans ce sens-là. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui aujourd'hui dirige ta vie? Ou est-ce que c'est le yaka et le faucon, le Dieu de la loi, et non plus le Dieu de la grâce? Si c'est non, alors il est possible que le père du mensonge se soit glissé dans tes pensées pour y construire une contrefaçon. Et je pense qu'il est temps de le dénoncer et de le mettre en lumière. Et voyez, cet amour, cette grâce, cette bienveillance, cette générosité de Dieu, derrière cette lettre, se manifeste en nous de cette façon. Au verset 4, il est dit que Dieu nous a choisis, et j'aime bien une des traductions, elle dit, pour être sien avec le Christ. Là, il y a un sentiment d'appartenance. Et Dieu nous a choisis. Au verset 5, il nous a adoptés comme ses enfants. Au verset 7, il nous a délivrés du mal, du pouvoir du péché et de l'esclavage. Au verset 7, il nous a lavés, pardonnés généreusement. Verset 8, il est dit qu'il nous a accordé une pleine sagesse et intelligence. Et au verset 14, il a mis sa marque personnelle en nous donnant le Saint-Esprit. Il est parlé du sceau, d'être scellé. Donc, ça c'est la lettre que le Seigneur nous a écrite. Et nous l'avons entendue, et un jour nous l'avons signée. Et la signature, c'est le jour où nous avons confié notre vie au Christ. C'est pour ça qu'il dit au verset 13, « Vous aussi, chrétiens d'entre les païens, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. » Ça, c'est la signature. Moi, je sais que le 2 mai 1975, c'est le jour où j'ai signé, où j'ai dit oui à Christ, alors que j'accomplissais mon service militaire en Martinique. Et vous savez, chaque fois que je vais à un mariage et que j'entends les vœux qui sont prononcés par les mariés, je me dis, j'aurais besoin de jeter un coup d'œil aux promesses que j'aurais éventuellement faites à ma femme. J'aurais besoin de relire un peu les promesses, relire un peu le message que le Seigneur nous a adressé. Et moi, je crois vraiment qu'il est bon, vraiment en tant que chrétien, de relire la lettre, de relire régulièrement le message de grâce que Dieu nous a adressé et que nous avons signé. Quelqu'un a dit même que les chrétiens devraient régulièrement se prêcher l'évangile à eux-mêmes. Et moi, je crois que c'est vrai. Parce qu'on peut facilement glisser vers une autre manière de vivre la vie chrétienne. Surtout si nous voulons retrouver la fraîcheur, l'enthousiasme, le feu et la passion pour Jésus. Et ça, c'était une prière que Paul adressait en faveur des Éphésiens. Hein, au chapitre 3, versets 17 à 19, voilà ce qu'il prie aux Éphésiens. Que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, et regardez cette phrase, et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Et ça, c'était une prière que Paul a faite à l'église d'Éphèse. Et je crois que c'est une prière qu'on a besoin d'appliquer à nous-mêmes. Et dans les Écritures, Dieu nous met en garde aussi contre les serviteurs de Dieu qui se comportent comme des loups, des manipulateurs, des faux bergers et qui sont ni humbles ni doux de cœur. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut aller n'importe où et dans n'importe quel endroit pour écouter toutes sortes de prédicateurs, surtout avec la toile Internet. Mais quel type de prédicateur allons-nous écouter? Quelles influences, quelle vie? Est-ce qu'on a l'occasion de voir si leur mode de vie correspond à leur prédication? Ça, c'est une autre question. Mais dans Ésaïe 34, versets 1 à 6, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes: « Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël, prophétise et dis à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine, vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. » Le yaka et le faucon. Vous savez, il y a beaucoup de soi-disant prédicateurs ou pasteurs autoproclamés qui marchent avec le yaka et le faucon et qui manipulent et culpabilisent les gens, parfois pour obtenir de l'argent. Et même Jésus en parle. Dans Jean 10, il parle du loup. Hein, Jean 10, versets 11 et 13, il parle des loups qui n'ont aucun souci des brebis. Et souvent, ils se reconnaissent par les faucons et les yakas. Si vous vous rappelez uniquement ça du message, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, j'aimerais terminer pour conclure par le PS, le post-scriptum, écrit après. Vous savez, il y a une autre phrase qui m'a aussi vraiment interpellé. Quelqu'un a dit que toute notre vie chrétienne, qui vient après que nous avons signé, donc, après notre conversion, est simplement une réponse, une reconnaissance face à l'amour que Dieu nous a manifesté à travers Jésus-Christ. Donc en fait, tout ce qu'on fait ensuite dans la vie chrétienne, c'est simplement une sorte de réponse à la grâce et à l'amour de Dieu. Et ça commence par « Je t'aime Seigneur ». Et c'était marrant parce que ce matin, j'ai regardé le livre des signatures. Et il y avait la petite fille du frère ici qui joue du piano. Elle m'a montré ce qu'elle avait écrit sur le livre. Et c'était « Jésus, je t'aime beaucoup. Jésus, je t'aime avec un petit cœur. » Je lui ai dit « C'est tout simple, mais c'est ça que le Seigneur a besoin d'entendre. Quand est-ce la dernière fois quand vous avez dit à Jésus que vous l'aimez ?» Dans 1 Jean 4, verset 10, voilà ce qu'il est écrit. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et au verset 19, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Écoutez bien cette phrase, parce que moi j'ai dû lutter avec ça, et je lutte encore avec ça. Si nous vivons notre vie chrétienne pour être aimés par Dieu, plutôt que parce que nous sommes aimés par Dieu, alors nous nous sommes trompés d'école. Et moi j'ai vécu avec un déficit, un gouffre affectif énorme dans ma vie, dans mon enfance, et je dois lutter avec ça. Est-ce que je suis en train de faire ça pour essayer de gagner l'amour de Dieu? Et parfois ça peut même être horizontal, pour gagner l'amour des autres, hein, pour gagner... On sait très bien qu'il y a même des hommes de Dieu qui cherchent des titres, qui cherchent des positions pour être aimés. Au lieu de réaliser que non, parce que je suis aimé par Dieu, je l'aime. Je veux te plaire, Seigneur. C'est pareil. Dans Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Nous pouvons chercher à être saints avec de fausses motivations. Par exemple, celle de croire que notre salut en dépend. Plus je serai saint, plus je serai sauvé. Enfin, je sais pas, mais moi, je suis étonné de voir parfois que la vie chrétienne est plutôt une sorte de code moral plutôt que de vie, ou que nous sommes meilleurs que les autres. Ça aussi, c'est notre motivation. Donc, si je t'aime, Seigneur, c'est une réponse, c'est une reconnaissance à cette lettre qu'on vient de lire dans Éphésiens, à la grâce que Dieu nous a faite. Je veux te plaire, Seigneur, c'est pareil. Je le fais en reconnaissance, c'est une réponse. C'est pas pour gagner quelque chose. Je veux te servir, Seigneur. Ça, c'est aussi une réponse. Et dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, vous allez remarquer qu'il est parlé des œuvres, mais à deux endroits différents, avec une autre signification. Il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc la raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres. » Vous voyez, là, il y a la place des œuvres. « Qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Et là encore, écoutez bien cette phrase. Il y a une différence entre faire des œuvres pour être sauvé et faire des œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est complètement différent dans la motivation. Quand l'amour est la motivation, quand la reconnaissance est la motivation, c'est complètement différent que le devoir et le poids. Et puis, le dernier, je suis prêt à mourir pour toi. Dans Marc 14, hein, versets 17 à 31, parfois on saute assez rapidement sur Pierre en disant « Oui, mais il l'a renié », mais il a quand même dit « Je suis prêt à mourir pour toi », ce qui est quand même à son crédit. Marc 14, Jésus leur dit « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je te renierai pas. » Moi, je crois qu'il était vraiment sincère à ce moment-là. Il était prêt à mourir pour le Seigneur, parce qu'il voyait en face de lui quelqu'un d'extraordinaire. Donc, vous voyez, le message, la lettre que le Seigneur nous a adressée, qu'on a lu dans... résumé un petit peu dans Éphésiens, la signature, le jour de notre conversion, et finalement, tout le reste de notre vie chrétienne, c'est le PS, post-scriptum. Et faisons-le vraiment en reconnaissance et en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, et non pas pour gagner ceci, gagner cela ou pas, parce que c'est cela qui va alourdir notre vie chrétienne. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des chrétiens en or, et non pas en bronze. J'aurais presque dit ce matin que vous valez 75 millions d'euros, mes frères et sœurs, pas 13 000. Amen.